VOA Afrique, les infos. À Washington, Camille Grosdidier.
Bonjour. Au 21e anniversaire du début du génocide rwandais, Kigali se félicite aujourd'hui de la décision de la présidence française hier de déclassifier ses archives sur le Rwanda de 1990 à 1995, permettant ainsi un meilleur éclairage sur la politique de Paris durant cette période très contestée par Kigali. Jean-Roger Bion.
La décision a été signée en présence de Dominique Bertinotti, ancienne ministre et mandataire des archives de la présidence de François Mitterrand, entre avril et juillet 1994. Quelques 800 000 personnes ont été tuées en une centaine de jours selon l'ONU. Les massacres avaient débuté au lendemain de l'attentat qui avait coûté la vie au président Hutu Juvenal Habyarimana. Le 6 avril 1994. Paris a toujours rejeté les allégations du président Paul Kagame au pouvoir depuis la fin du génocide, accusant la France de complicité dans les massacres.
En République centrafricaine, verdict attendu aujourd'hui à Bangui dans le procès du ministre centrafricain du Tourisme, des Arts et de la Culture. Romaric Vomitiade est poursuivi pour viol d'une mineure de 16 ans. Il risque plusieurs années de prison s'il est reconnu coupable. En République démocratique du Congo, ouverture d'une enquête sur la fosse commune découverte dans un cimetière de Kinshasa. Objectif, déterminer l'origine des plus de 400 dépouilles retrouvées sur le site. Les explications du ministre congolais de la Sécurité Emmanuel Akweti au micro d'Eddie Isango.
Les services techniques de la morgue centrale de la ville de Kinshasa ont procédé à des inhumations collectives de quatre catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les personnes dont les corps ont été abandonnés dans les différentes morgues de la ville de Kinshasa qui les ont déversés à la morgue centrale de la ville. La deuxième catégorie, ce sont les corps de personnes non identifiées dont les services sociaux ont eu à ramener auprès soit de la morgue centrale de Kinshasa ou dans d'autres morgues des hôpitaux de la ville de Kinshasa qui, après un temps de conservation, les acheminent à la morgue centrale de la ville. La troisième catégorie, c'est la catégorie des morts nés, ainsi que enfin la catégorie des fœtus. Ces personnes ont été abandonnées ou ont été gardées à la morgue centrale pendant une période. Après enquête, la morgue devant libérer de la place procède de temps en temps à des inhumations.
Ce qui intrigue les organisations des droits de l'homme, c'est que l'enterrement a été procédé la nuit, mais aussi les nombres élevés des indigents et de ces corps abandonnés à Kinshasa.
C'est exact. D'après les services techniques de cette morgue centrale, par rapport au nombre important, on nous renseigne qu'il y a eu plus ou moins 300 morts-nés, 300 fœtus sur les 400 qui ont été enterrés pendant cette opération-là. Et puis, il y a eu 27 personnes dont le corps avait été abandonné dans la morgue de l'hôpital Saint-Joseph à Limité. Une autre catégorie de personnes ont été acheminées à la morgue centrale par la morgue de l'hôpital général de référence.
Des cas de corps trouvés abandonnés dans des hôpitaux ou dans la rue, est-ce qu'on doit les enterrer la nuit?
Parler de la nuit, je ne comprends pas qu'on puisse parler de la nuit. Les services techniques nous disent que l'opération se passe à des petites heures du matin. Simplement parce que pour la plupart de ce corps, leur état est déplorable. Ils ont une dégradation suffisamment avancée et il n'est pas aisé de pouvoir traverser la ville avec les corps dans cet état pour des raisons d'hygiène, de salubrité, de commodité et de pollution.
Le ministre congolais de la Sécurité, M. Emmanuel Akweti, RDC toujours, 9 soldats congolais, dont 3 officiers, ont été tués dans une embuscade tendue par des rebelles FDLR dans le Nord Kivu. Les militaires congolais ont été tués dans l'est du district de Masisi, selon le général-major Léon Mouchalet. Au Burundi, l'afflux des ressortissants burundais au Rwanda voisin par crainte de violence dans leur pays préoccupe les autorités de Bujumbura. Le président Pierre Nkurunziza est monté personnellement au créneau hier dans la commune de Kirundo, dans le nord du pays, pour inviter les fuyards à rentrer chez eux. Le point avec Désiré Hatung Gimana, correspondant du service Kirundé Kinyarwandais de VOA Afrique au micro de Timothée Donangmai.
Le chef de l'État a demandé Pierre Nkurunziza à rencontrer les natifs de la commune de Kirundo pour parler de ces réfugiés qui quittent la province de Kirundo pour se rendre dans le Rwanda voisin. Il a indiqué que le Burundi est un pays de paix et il ne comprend pas pourquoi ces gens quittent Kirundo pour se rendre au Rwanda. Le président de la République a demandé aux habitants de Kirundo de contacter tous ces gens qui se sont rendus au Rwanda pour qu'ils puissent revenir au Burundi dans un pays de paix et de miel. Il a indiqué que tous ces gens qui sont partis n'ont pas de motif valable pour fuir au pays, raison pour laquelle ils doivent regagner le Burundi dans un délai ne dépassant pas un mois.
Quelle est la situation sur la frontière entre les deux pays?
La frontière maintenant sur le Rwanda est fermée pour empêcher que les Burundais continuent à fuir le pays.
Quelle est l'ampleur de ces départs de Burundais vers le Rwanda? Quels chiffres avance-t-on?
Aujourd'hui, certaines gens avancent le chiffre de 800 personnes qui auraient déjà franchi les frontières. Mais avec la fermeture des frontières, personne ne sort. C'est-à-dire que les Burundais n'ont pas aujourd'hui l'accès pour se rendre au Rwanda. Une situation que les associations des droits de l'homme considèrent comme une injustice pour les gens parce que chaque personne a droit de faire des mouvements librement.
Nouveau code électoral au Burkina Faso. Tous ceux qui ont soutenu les efforts de l'ex-président Blaise Compaoré pour s'accrocher au pouvoir en modifiant la constitution nationale sont désormais interdits de participation aux prochaines élections du mois d'octobre. Toujours aucune nouvelle de l'otage roumain enlevé samedi dernier dans la mine de manganèse de Tambao. Au Burkina Faso, le ministre burkinabé de la Sécurité a révélé que les armées américaines et françaises participe aux recherches aux côtés de troupes burkinabées. Auguste Denise Barry se dit également en contact permanent avec les autorités maliennes et nigériennes dans ce dossier. Selon l'agence Reuters, les autorités kényanes ont suspendu les permis d'exploitation de 13 sociétés somaliennes de transfert de fonds installées au Kenya. Jean-Roger Bion.
Cette décision est intervenue après l'attentat commis contre le campus de l'université de Garissa qui a coûté la vie à 148 personnes la semaine passée. Par ailleurs, le journal kényan Daily Nation précise que le gouvernement de Nairobi a gelé les comptes bancaires appartenant à 86 particuliers et entreprises soupçonnées de financer le terrorisme dans le pays. Néanmoins, le gouverneur de la Banque centrale somalienne, Bachir Issa Ali, a expliqué que ces mesures risquaient d'avoir un effet dévastateur sur la communauté somalienne du Kenya qui compte un peu plus d'un million de membres. En effet, de nombreux Somaliens résidant au Kenya dépendent de l'aide de leurs proches.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité américaine, l'administration Obama, qui se prépare à des mois d'âpres négociations internationales avec l'Iran, doit parallèlement se battre pour éviter que le Congrès, par ses actions, ne compromette les efforts diplomatiques des puissances mondiales dans le dossier nucléaire iranien. Un nombre croissant de parlementaires américains, républicains aussi bien que démocrates, estiment que le Congrès devrait voter sur tout accord final avec Téhéran sur le nucléaire iranien. Côté israélien, le premier ministre Benjamin Netanyahou a poursuivi son offensive contre l'accord cadre conclu entre Téhéran et les grandes puissances sur le dossier nucléaire. Il a déploré qu'ils ne comprennent pas l'arsenal de missiles à longue portée de l'Iran. Pourquoi l'accord cadre ne comprend pas le programme de missiles balistiques intercontinentaux de l'Iran, dont le seul but est de porter des charges nucléaires, a-t-il indiqué sur son compte officiel Twitter. Il a en outre estimé que les bénéfices économiques dont tirerait parti Téhéran après une levée des sanctions pourraient servir à financer les groupes radicaux soutenus par l'Iran au Moyen-Orient. Conflit au Yémen, selon le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, la filiale yéménite d'Al-Qaïda au Yémen profite de la guerre entre les rebelles chiites houthis soutenus par l'Iran et les forces pro-gouvernementales appuyées par la coalition menée par l'Arabie saoudite pour gagner du terrain dans le pays. La crise au Yémen complique les efforts de Washington pour contrer Al-Qaïda dans la péninsule arabique, a souligné le numéro 1 du Pentagone. Voilà, c'est tout pour ces nouvelles. Très bonne journée.
Soyez au